Remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être à nouveau ici pour adorer, nous consacrer à Dieu, lui demander de nous bénir comme il a béni tous ceux qu'il a lui-même appelés, fait grâce, à qui il a fait des promesses et avec qui il était tous les jours de leur vie pour les garder et accomplir la parole qu'il leur a donnée. Dieu veille sur sa parole, non pas dans le vide, mais là où les hommes l'accueillent avec foi, là où ils sont prêts à se mettre à sa disposition pour qu'il puisse l'accomplir sur terre. Nous avons certainement saisi en grande partie le temps dans lequel nous vivons. Nous avons compris ce dont Dieu s'occupe maintenant. Et nous avons souligné que nous ne vivons pas dans d'autres temps, mais dans un temps très particulier. Un temps plus grave que tout autre. Une époque qui est confrontée à tant de contradictions et à tant de choses comme aucune autre. Une époque où les gens ont plus de mal que jamais une époque où les gens ont plus de mal que jamais à trouver le chemin de Dieu et à reconnaître ce qu'est la vérité. Tout le monde prétend détenir la vérité. Tout le monde prétend servir Dieu et suivre Dieu. Il y a tant de voix qui se sont élevées. Au milieu de tout cela, Dieu a son peuple. Et les siens écoutent sa voix. Et sa voix est sa parole. Non pas mon interprétation et la tienne de sa parole, mais sa parole qui nous a été adressée dans la clarté et la vérité. Je suis encore sous le coup de la soirée d'hier. Appartenir au peuple de Dieu est quelque chose de merveilleux, mais cela implique une responsabilité. Et le Seigneur nous demande des comptes et veut que nous croyions en lui, que nous lui fassions confiance et que nous lui obéissions. La bénédiction de Dieu repose sur l'obéissance. Et comme Paul l'écrit dans Romains 16, afin de susciter l'obéissance de la foi chez tous les peuples païens, alors il y a là quelque chose de grand. Romains 16, verset 26, pas seulement la foi, mais l'obéissance de la foi. L'obéissance doit être envers quelqu'un. Et dans ce cas, elle doit être envers Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est obéir à sa parole. Si mes enfants m'obéissent, ils font ce que je leur ai dit. Et il en va de même avec Dieu et avec nous. Si nous faisons ce qu'il nous a dit, nous lui obéissons. Il est dit, montrez-vous comme des enfants de Dieu obéissants et ne conformez pas votre conduite à la manière de ce monde. Et Dieu veut nous éduquer à cela pour que nous devenions obéissants afin que sa bénédiction repose sur cette obéissance. Nous avons encore entendu des choses magnifiques et je dois réfléchir à la manière dont David a traversé les situations les plus diverses dans sa vie. Mais il s'est toujours présenté devant Dieu, qu'il se plaigne, qu'il pousse des cris de joie, qu'il pleure et se lamente, qu'il exulte et se réjouisse. Il a toujours fait face à Dieu. Quand on lit les psaumes, c'est une coupe transversale de toute la vie comme nous l'avons tous plus ou moins vécu. Il s'est toujours présenté devant Dieu en sachant que s'il venait dans son sanctuaire et invoquait son nom, le Seigneur répondrait. Nous l'avons entendu dans l'une des prédications. Le Seigneur a promis de répondre, mais il n'a pas dit quand. Et il peut arriver que nous fixions un temps à Dieu et que nous disions, Seigneur, dans tel et tel temps, tu devrais répondre. Si cela n'arrive pas, alors je ne sais pas. Et Dieu se soucie très peu de notre emploi de temps, du temps, mais il se soucie beaucoup de nous. Et nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas dire à Dieu quand il doit faire quoi, mais croire qu'il le fera parce qu'il l'a promis. Et ainsi, nous nous épargnons bien des chagrins que nous nous créons nous-mêmes et bien des déceptions que nous nous sommes programmées. Nous n'avons que les déceptions que nous avons nous-mêmes incluses dans notre programme, ni plus ni moins. Dieu ne nous a pas encore déçus, jamais, pas une seule fois. Mais c'est nous qui avons fait en sorte que certaines de ces choses se produisent. Mais toutes ces choses, c'est nous qui les avons préprogrammées. Et c'est justement par la technique de notre époque, par les ordinateurs, et cela se répercute aussi, je parle de façon aberrante, sur les croyants, sur moi et sur toi. Revenons à l'ancien temps où les gens avaient une confiance illimitée dans le Seigneur, où ils ne se fixaient pas de temps, mais où ils avaient foi en Dieu et savaient qu'il ferait bien les choses. Nous avons lu ici, heureux ceux qui habitent dans ta maison, qui te louent sans cesse. Derrière cette parole se trouve le mot Zéla. Et à chaque fois que ce mot était écrit, il y avait une pause. Les gens rentrent en eux-mêmes. Ils s'arrêtent sur cette pensée. Et je veux dire que nous aussi, nous pouvons nous arrêter là. Psaume 84, verset 5. Si nous lisons dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est au chapitre 3, verset 6, « Et nous sommes sa maison ». Nous avons lu dans le psaume 84, verset 5, et ici, Hébreux 3, verset 6, « Et nous sommes sa maison ». Dieu a une demeure sur terre. Il a une maison. Et dans 1 Timothée 3, au verset 15, il est écrit, « Afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Vous savez que David avait un grand désir dans son cœur de construire une maison pour Dieu. Et savez-vous pourquoi et dans quel but? Qui d'entre vous sait pourquoi David avait dans son cœur un désir si profond de construire une maison pour Dieu? Qui sait la raison, la cause pour laquelle il voulait le faire? Il a dit et expliqué lui-même. Pour donner à l'arche de l'Alliance un lieu où elle puisse rester, pour qu'elle ne soit pas transportée ça et là, mais qu'elle ait un endroit, un lieu. Et il dit ensuite, là où sera même la plante de tes pieds. Là où se trouvait l'arche de l'Alliance, là était Dieu. Que ce soit à Édom, comme tous ces gens s'appelaient, ou que l'arche d'Alliance ait été transportée, que ce soit les Jébusiens ou qui que ce soit partout, on a fait l'expérience de la présence de Dieu. Et que contenait l'arche d'Alliance? Elle contenait la parole du Seigneur. Et nous pourrions dire aujourd'hui qu'il s'agissait malgré tout d'une lettre morte, car la lettre était gravée sur des tablettes ou écrite sur des peaux de chèvre, ce qu'on appelait alors autrefois du parchemin. Alors, si nous avons un peu plus loin, si nous allons un peu plus loin, nous devons dire que même si la parole de Dieu a été écrite et qu'elle semble être une lettre morte, elle n'en reste pas moins vivante et valable devant Dieu. Et comme Paul l'écrit dans l'Épître aux Hébreux, plus tranchante que toute épée à double tranchant. Dieu est lié à sa parole. Là où se trouve sa parole, là il est. Il est là. Nous en arrivons maintenant au point où nous sommes tous censés être un temple de Dieu. Donc, et l'Écriture dit que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. 1 Corinthiens 3:17. À quoi devrait servir le temple? Nous l'avons déjà dit, pour donner une place au Seigneur, pour y porter l'arche de l'Alliance. Lorsque l'arche d'Alliance fut placée à sa place, Salomon sortit et leva les mains sur le pavé, s'agenouilla et invoqua le Dieu des cieux. Et la gloire de Dieu remplit la maison. Quand la gloire de Dieu te remplira-t-elle, toi et moi, et ramènera-t-elle l'Église du Nouveau Testament à être quelque chose à la gloire et à la louange de sa gloire? Quand? Lorsque la parole de Dieu aura été déposée dans ton cœur et dans le mien, lorsque toi et moi serons devenus une telle arche d'alliance dans laquelle la parole de Dieu pourra être. Alors Dieu descendra là même et confirmera sa parole que nous portons. Et je pense que ce temps est maintenant venu pour faire la séparation entre tout ce qui vient des hommes et tout ce qui vient de Dieu. Nous avons compris qu'il s'agit d'un temps particulier dans la mesure où Dieu opère une séparation. Et le prophète, c'était sans doute Ésaïe qui l'a dit, qu'est-ce que le blé à avoir avec la paille. En fait, je l'avais aussi inclus dans la lettre circulaire à l'origine, Et maintenant, je n'ai plus que cette partie. Quel est le rapport entre la parole et les interprétations? Nous avons compris que le mélange ne peut pas exister devant Dieu, que de faux enfants sont engendrés et surgissent, qui n'écoutent pas Dieu, qui ne se laissent rien dire, qui suivent l'obstination de leur propre cœur. C'est exactement ce qui s'est passé avec Ismaël, un homme sauvage, bien qu'ayant Abraham pour père, mais sans promesse. Un homme sauvage, il n'a pas pu être dompté. Il en est ainsi de tous ceux qui ne se soumettent pas maintenant à la parole de la promesse divine. Ils s'en vont et Dieu ne peut pas leur parler. Heureux ceux qui habitent dans ta maison, qui te louent en tout temps. Ça, c'est notre souhait, notre désir. On pourrait tout relire encore et encore. Mon âme a aspiré, oui, elle a langui vers tes parvis, ô Seigneur. Ce désir en nous pour la révélation de Dieu doit devenir si grand qu'il s'exprime, voire que nous ne pouvons plus le supporter parce que Dieu ne se révèle pas encore de cette manière comme cela est écrit dans cette Bible. Et quand je suis parfois seul, j'ai au-dessus de mon comptoir, je ne parle pas de boisson, mais d'un comptoir sur lequel ou au-dessus duquel sont suspendues les lampes, et là se trouve la très vieille Bible, vieille de bien 300 ans. Et là, sous l'éclairage de cette lumière, je dis assez souvent jusqu'à la nuit, je dis parfois, Seigneur mon Dieu, tout ce qui a été rapporté ici est vrai. Et tu es toujours le même aujourd'hui. Tu t'es donné un témoignage vivant sur terre et tu l'as laissé derrière toi. Et tu as encore maintenant des hommes que tu pourrais utiliser pour refaire la même chose que tu as faite autrefois. Il t'est facile, ô Dieu, de faire à nouveau ce que tu as fait autrefois. Je voudrais juste lire brièvement quelques paroles. Peut-être que Frère Rousse dira aussi quelque chose aujourd'hui. Nous sommes en effet si reconnaissants de pouvoir encore nous réunir, de pouvoir nous édifier dans la foi devant la face de Dieu. Chaque réunion, chaque parole que nous lisons a quelque chose de constructif en elle, même si Dieu doit parfois abaisser son marteau pour briser certaines choses. Mais jamais pour nous écraser, toi et moi, mais tout au plus ce que toi et moi devons laisser tomber, ce que nous devons abandonner, sur quoi le marteau de Dieu peut descendre avec assurance, mais jamais sur toi et jamais sur moi. Dieu ne prend pas plaisir à nous faire souffrir. Dieu veut que nous soyons heureux. Cela a déjà été écrit à Théophile par Paul dans sa courte lettre. Mais les choses qui constituent un obstacle devant Dieu pour toi et pour moi, pour ta vie de foi et pour la mienne, pour ta croyance spirituelle, pour ta croissance spirituelle et pour la mienne, c'est sur elle que vient le marteau de Dieu Ce sont sur ces choses que le marteau de Dieu vient. C'est sur elles que l'on met l'épée ou le couteau de cuisine pour trancher. En effet, nous avons été instruits en ce moment comme jamais auparavant, bien que je sois parfaitement conscient que tous ceux qui sont croyants depuis longtemps tiendront jusqu'à la fin l'époque où ils sont venus à la foi comme la plus grande, la plus glorieuse, la plus importante. Il n'y a pas d'homme qui ait véritablement expérimenté Dieu qui aura encore une fois dans toute sa vie une période qui dépasse celle du début. À moins que Dieu ne nous fasse comprendre que la fin peut être aussi importante que l'était le début. Mais nous tous, et surtout à mesure que nous vieillissons, nous revenons de plus en plus au temps du début. Et Dieu pourrait ressusciter les morts aujourd'hui. Nous parlerions de ce qui s'est passé à l'époque, car nous l'avons vécu avec une telle fraîcheur. Nous sommes venus à la foi. La parole nous est devenue nouvelle. La grâce nous a saisis. Nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi les temps que nous avons vécu autrefois sont si incarnés pour nous. Mais Dieu continue à faire de grandes choses, peut-être encore plus grandes que ce qu'il a fait à l'époque. Et j'espère que nous en serons tous témoins et que nous le verrons ainsi. En ce qui concerne l'enseignement, Moïse a déjà prononcé une parole très particulière à la fin de son pèlerinage terrestre. Il est dit ici dans Deutéronome 32, verset 1. Cieux, écoute, et je parlerai. Terre entend les paroles de ma bouche. Verset 2. Que mon enseignement se répande comme la pluie, que mes paroles ruissellent comme la rosée, comme une averse sur la jeune verdure, comme des gouttes de pluie sur les plantes. Verset 3. Car j'annoncerai le nom du Seigneur, donnez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. Il est un Dieu de fidélité et sans fraude. Il est juste et vrai. Voilà, jusqu'à là, cette précieuse parole de Dieu, nous l'avons constatée ces derniers jours, comme la pluie est bienfaisante pour les terres arides. Quel rafraîchissement, quelle vivification, il est même nécessaire que la pluie vienne. Ici, le prophète de Dieu dit, au verset 2, que mon enseignement se répande comme la pluie. Donc, c'est le Seigneur qui parle ici. Que mon enseignement se répande comme la pluie, que mes paroles ruissellent comme la rosée, comme une averse sur la jeune verdure, comme des gouttes de pluie sur les plantes. Un enseignement n'est pas seulement une parole vide. Un enseignement qui vient de Dieu signifie être abreuvé par Dieu, être assis sous la rosée du Tout-Puissant et que l'humidité accompagne la parole afin que le germe qui est dans la semence puisse sortir. Avec Dieu, il n'y a ni parole sans sens, ni parole sèche. En Dieu, chaque parole est pleine, et donc c'est un évangile plein, et la parole est accompagnée par l'Esprit pour la rendre vivante. Si l'on considère les prophètes et les apôtres, avec quelle sagesse divine ils ont apporté, écrit la parole, nous ne pouvons que nous émerveiller. Pour ceux qui utilisent la raison, certaines choses peuvent paraître compliquées. Pour ceux qui sont guidés par l'Esprit, rien n'est compliqué, tout est très clair. Jacques écrit dans sa lettre, au chapitre 3, verset 1, « Ne vous pressez pas, ne vous pressez pas d'être des enseignants, mes frères. Considérez bien que nous recevrons un jugement d'autant plus sévère. Si nous plaçons sur le chandelier les enseignements divins qui ont été donnés en ce temps, nous sommes conscients de ce que cela implique comme responsabilité devant Dieu. Il y a des enseignants qui enseignent sans Dieu et ils enseignent ce qu'ils veulent. Mais Dieu a placé dans l'Église des apôtres, des prophètes, des bergers, des enseignants et des évangélistes. Et si nous faisons partie de l'Église de Dieu, alors ces ministères-là nous interpelleront. Ils signifieront alors pour nous ce pourquoi Dieu les a établis. Et il est encore écrit que Dieu a établi ces ministères pour préparer les saints, pour les rendre capables. Pourquoi mettons-nous l'accent sur le ministère prophétique? Pourquoi attachons-nous tant d'importance à l'enseignement divin? Ce n'est pas parce que nous en avons envie, non pas pour offenser les gens, mais pour souligner que Dieu se tient à sa parole et qu'elle est toujours valable aujourd'hui et qu'il n'y a pas que des hommes qui parlent de Dieu de leur propre chef, mais qu'ils avaient des instruments par lesquels il pouvait lui-même parler. Et nous avons reconnu cette différence par la grâce de Dieu. Beaucoup peuvent parler de Dieu. Chaque prêtre, chaque prédicateur, chaque évangéliste, chacun peut dire ce qu'il veut sur Dieu. Mais qui est celui par qui Dieu lui-même peut nous parler? C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est bien de cela qu'il s'agit ici. Et Paul a écrit à l'époque autrefois que vous ayez reçu la parole que nous vous avons annoncée, non comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, ce qu'elle est en effet. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Et c'est à cela qu'il faut s'attacher en ces jours, à distinguer les paroles des hommes de la parole de Dieu. Et parfois, nous avons déjà entendu les choses tant de fois et depuis si longtemps que nous les considérons comme la parole de Dieu. Mais une chose qui a été enseignée ou soulignée pendant des centaines d'années ne devient pas automatiquement la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est et reste ce qui est écrit dans la Bible. Et tout le reste doit être examiné à travers cette parole. Et le Seigneur accordera certainement la grâce pour qu'elle soit bien reçue. Avant-hier, nous avons lu une parole dans la Bible. Et d'une certaine manière, il m'est venu à l'esprit, il m'est venu dans la pensée que parfois il a effectivement été dit quelque chose que les gens ne peuvent peut-être pas surmonter du premier coup. Avant de vous lire cette parole, je vais vous en lire une autre tirée de Luc. Luc, le 12e chapitre. Luc, chapitre 12, il est écrit ici au verset 20. Mais Dieu lui dit, verset 20, Luc 12, verset 20, insensé, cette nuit même on te demandera ton âme. Cette parole m'a en quelque sorte touché au cœur. Le Seigneur a dit dans le sermon sur la montagne, quiconque dit à quelqu'un insensé est coupable du feu de l'enfer. Matthieu 5, verset 22. Et ici, il le dit lui-même. Il est dit littéralement, mais Dieu lui a dit insensé. Si nous ouvrons Matthieu 5 à ce sujet, il est dit au verset 22, Matthieu 5, verset 22, moi, au contraire, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Quiconque dit à son frère un imbécile est passible du Sanhédrin. Et quiconque lui dit insensé est passible de l'enfer de feu. C'est ce qu'a dit notre Seigneur dans le sermon sur la montagne connu dans le monde entier. Il est écrit ici, verset 20, mais Dieu lui dit dans sans insensé, cette nuit même, on te demandera ton âme. À qui appartiendra ce que tu as amassé? Verset 21. Il en est ainsi pour quiconque amasse des trésors pour lui-même et n'est pas riche pour Dieu. J'ai lu la note qui dit qu'il ne met pas ses richesses au service de Dieu. Eh bien, il y a justement des gens qui ne vivent pas pour Dieu. Ils ne vivent pour lui qu'avec des mots, avec des paroles. Mais remarquez de quoi il s'agit ici. Dans Matthieu chapitre 5, il s'agit de la notion de frère, non pas de la notion d'un impie, non pas de la notion d'un homme qui descend en enfer, mais d'un frère en Christ, d'un racheté, qui ne descend pas, mais qui est accueilli en haut. Ici, dans Luc 12, il s'agit d'un homme qui a vécu pour lui-même, qui n'a pas pensé à Dieu, qui doit descendre. Voilà, c'est un autre contexte. Aujourd'hui encore, on te demandera ton âme. Un tel homme était un insensé. Et c'est pourquoi on pouvait s'adresser à lui de cette manière. Il est dit ici, je veux insister sur le mot « frère » pour que vous sachiez qu'il est écrit ici, Matthieu 5, verset 22. Moi, au contraire, je vous dis, celui qui ne fait que se mettre en colère contre son frère sera voué au jugement. Imaginez un peu combien on s'irrite aujourd'hui. Combien on s'emporte aujourd'hui. Combien on en veut parfois à un frère. Combien il y a de choses. Et pourtant, on se glorifie de la grâce du Seigneur. Mais là où se trouve la grâce du Seigneur, là se trouve le pardon. Car le mot grâce parle bien de grâce. Bien de grâce. Et là où il y a grâce, il y a aussi pardon. Il est dit plus loin, verset 22. Et celui qui dira à son frère, imbécile, Matthieu 5, sera voué au haut conseil. Et celui qui lui dira insensé sera voué à l'enfer de feu. Vous voyez? Sera voué ou sera coupable. Vous voyez, Dieu est si grand, est si sage. Si des non-croyants le lisaient, ils pourraient dire, oui, mais il est écrit ici comme ceci et là, comme cela. Il dit quelque chose et il le fait lui-même. Non, l'important est toujours de lire le contexte exact et de le prendre à cœur, car Dieu veut nous instruire. Et nous pourrions, par exemple, prendre le mot « loi ». et savoir tout ce qui est dit à ce sujet. Et il n'y a pas un seul homme sous le soleil qui puisse résumer toutes ces paroles en un seul dénominateur. Mais Dieu peut le faire. Il est écrit en un endroit, Christ est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Sur l'un d'eux que j'ai sous les yeux, il est écrit, car je vous le dis en vérité, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Donc, Matthieu 5, verset 18. Pas un seul iota, ni un seul trait de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit accompli. Et encore, plus loin, verset 19. Donc, celui donc qui supprimera un seul de ses commandements, même le plus petit, et qui enseignera les hommes en conséquence, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera ainsi sera appelé grand dans le royaume des cieux. Matthieu 5, verset 18 et 19. Si j'ouvrais l'épître aux Galates et quelques autres, nous ne saurions peut-être plus où donner de la tête en ce moment. Et pourtant, tout est juste à 100%. Mais que personne se presse à enseigner. Tout d'abord, nous devons avoir été enseignés par Dieu. L'accès à la parole de Dieu doit nous avoir été donné. Et cela ne vient pas de nous. Cela vient du Seigneur seul. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les paroles de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe sont rapportées par notre Seigneur. Au verset 45, Jean 6, verset 45. Ici, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ésaïe 54, 13. Tous ceux qui ont entendu et appris du Père viennent à moi. Ça, c'est l'enseignement divin. Ce n'est pas en parole seulement, mais par l'enseignement divin. C'est ainsi que nous parvenons à Jésus-Christ, que nous venons à lui. Que nous sommes conduits à lui. Il est en effet la révélation de Dieu dans la chair. Je l'ai souvent dit. Dieu a parlé par les prophètes. Mais celui qui a vu Moïse a vu Moïse. Celui qui a entendu Abraham a entendu Abraham. Celui qui a vu Pierre a vu Pierre. Et celui qui a vu Paul a vu Paul. Mais celui qui a vu Jésus-Christ avec des yeux oints par Dieu a vu la parole faite chair. Il a vu Dieu révélé sous forme humaine. Quelle est donc l'importance de cette affirmation? Jean 6, 45, il est en effet écrit chez les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Tous ceux qui ont entendu et appris du Père viennent à moi. Ça, c'est l'enseignement divin. Que nous venions à Jésus-Christ, que nous soyons conduits à lui. Il est le centre de la révélation divine. Oui, que nous venions à la révélation de Jésus-Christ. Vous pouvez oublier tout enseignement qui ne nous conduit pas au Christ, à Christ, mais qui veut nous amener dans des sphères supérieures. Et si l'on suit ces enseignements jusqu'au bout, y trouve-t-on Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on y trouve? Que trouve-t-on à la fin d'un enseignement? C'est la question. Telle est la question. Tout enseignement qui part de Dieu, qui sort de Dieu, conduit à Jésus-Christ. Il débouche en lui. Et là où il débouche en lui, la vie divine se manifeste en nous, la réconciliation et le salut. L'enseignement de Dieu n'est pas un savoir intellectuel, une connaissance particulière. Un enseignement qui vient de Dieu nous conduit là où est notre place, c'est-à-dire nous conduit à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est pourquoi je crois en toute conviction que nous avons conservé l'équilibre de l'enseignement divin. Nous n'avons pas couru à droite et à gauche après des choses fantastiques pour ne pas avoir à utiliser le mot fantaisie, mais nous nous sommes présentés au Seigneur et nous voulons rester dans la maison de Dieu, toujours là. Nous voulons devenir nous-mêmes un temple de Dieu dans lequel se trouve l'arche d'alliance des hommes qui portent en eux la parole de Dieu, qui l'ont reçue, qui sont revenus à Jésus-Christ, qui est la parole et de qui tout émane. Car c'est par lui et pour lui que tout ce qui a été créé a été créé. Comme nous l'avons déjà dit, c'est en lui que tout a son origine, c'est en lui que tout s'achève. C'est pourquoi nous n'attachons aucune importance à l'enseignement qui vient des hommes et qui a ensuite pour but les hommes. Mais nous nous attachons à l'enseignement qui vient de Dieu. Et elle ne s'arrête pas à la personne par laquelle Dieu l'a fait transmettre, mais l'enseignement divin conduit à Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne s'arrête pas à la personne par laquelle Dieu l'a fait passer. Et qu'en était-il de Jean? A-t-il fait référence à lui-même? On est venu le voir et on lui a demandé si c'était bien lui. Et oui, certainement, car son ministère était alors, n'est-ce pas, unique autrefois. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1, il est écrit au verset 20. Jean 1, verset 20. Alors il confessa ouvertement et déclara, je ne suis pas le Christ. Verset 21, ils lui demandèrent encore, quoi donc? Es-tu Élie? Et il répondit, non, je ne le suis pas. Oh, quel merveilleux témoignage. Il n'y a pas de passage biblique d'une telle importance pour la promesse finale que Dieu enverra le prophète Élie avant que le grand et terrible jour du Seigneur n'arrive, comme celui que nous venons de lire. On lui demande, es-tu Élie? Il répond, non, je ne le suis pas. A-t-il menti ou a-t-il dit la vérité? Il est facile pour les hommes de parler quand ils passent à côté de Dieu, quand ils parlent à côté de Dieu. Où est l'enseignement divin? Mais non, pas en dehors de la parole, mais l'enseignement divin est à l'intérieur de la parole et pas seulement fondé sur un passage biblique seul, mais sur le témoignage global des Saintes Écritures. N'importe qui, même le diable, peut prendre un passage de la Bible et dire au Seigneur, oh, il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains et que tu ne heurteras pas ton pied contre une pierre. Matthieu 4, 6. Ce n'est pas le pied qui s'est heurté, mais si le Seigneur avait sauté, c'est certainement tout le corps qui aurait été affecté. L'ennemi peut prendre des passages bibliques isolés, les sortir de leur contexte, et la confusion est alors parfaite. Mais le Dieu Tout-Puissant a envoyé ses serviteurs et ses prophètes à conduire, à guider leur bouche, à façonner leurs paroles, et ils les ont prononcées au nom du Seigneur. Et il en va de même jusqu'à ces jours-ci. Et lorsque frère Branham a prié dans l'un des sermons, « Oh Dieu, tu es aujourd'hui encore le même qui a fermé la gueule des lions d'autrefois, lorsque Daniel y a été jeté, ferme ma bouche si je devais dire quelque chose que tu ne voudrais pas que je dise, que tu ne voudrais pas que je dise. » Comme cet homme a été humble, mais comme il a pris cela lui-même au sérieux. Ferme ma bouche si je devais dire quelque chose qui ne serait pas juste devant toi. Ici, à la question, es-tu Élie, Jean a répondu, non, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non, il était un prophète, mais pas le prophète, dont Moïse avait dit, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Deutéronome 18, 15. Il avait très bien compris la question et y a répondu très précisément. Puis il est écrit encore, Jean 1, verset 22, il lui dit alors, qui es-tu donc? Nous devons pourtant apporter une réponse à ceux qui nous ont envoyés. De quoi te prétends-tu toi-même? Verset 23, il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme l'a ordonné le prophète Ésaïe. Ésaïe 43, comme c'est merveilleux. Il savait la première question, la deuxième question, et ainsi de suite, ne s'applique pas à moi. Mais il n'a pas eu honte de répondre par oui lorsqu'on lui a demandé « Qui es-tu ?» Et il s'est alors référé à la parole prononcée par le prophète Ésaïe. Bien-aimés, nous vivons à la même époque. Si les choses ont été clairement exprimées, qui se sont produites à cette époque, conformément à la parole de Dieu, ce n'est pas pour mettre en avant un homme. Mais comme il est écrit, comme il est dit ici, frayez un chemin au Seigneur, aplanissez une route pour notre Dieu. La même chose s'est produite à travers le dernier ministère, le ministère prophétique que Dieu a donné. À cette époque, autrefois, les gens ne s'attachaient pas à Jean, ne sont pas restés attachés à Jean, mais suivaient le Seigneur, ont suivi le Seigneur. Ils pouvaient montrer le Sauveur du doigt et dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimés, transposer et appliquer à notre époque, cela signifie pour moi et pour toi. Premièrement, que nous avons entendu avec une clarté divine, sur la base de la parole, tout ce qui a été promis pour ce temps. Et que c'est avec la même clarté que la référence au Seigneur, voire au retour du Seigneur, nous a été donnée. Troisièmement, que l'homme que Dieu a utilisé en particulier n'a pas eu honte de mettre en évidence et de souligner la parole qui s'appliquait à lui. Que ce soit dans le prophète Malachie ou dans d'autres passages bibliques, ils ont été soulignés. Tout cela afin que l'Écriture soit accomplie. Et que tous ceux qui sont enseignés par Dieu viennent à Jésus-Christ. C'est l'objet principal de l'enseignement divin. Tout ce qui conduit à suivre des hommes et à s'engager pour eux et autour d'eux a totalement manqué le but. Une personne qui a été enseignée par Dieu trouve Jésus-Christ et vient à lui et entendra tout ce qui a été promis dans la parole et croira de tout son cœur et en fera personnellement l'expérience. Que Dieu nous bénisse tous de la richesse de sa grâce. Amen. Je te remercie de tout cœur pour ta grâce incommensurable, pour ta fidélité, pour ta miséricorde, pour tes paroles, pour ton action. Seigneur, pour tout ce que tu fais. Et ensemble, nous te remercions de nous avoir maintenant, de nous avoir maintenus plutôt dans ta grâce et dans ta parole. Ensemble, nous nous mettons à ta disposition comme temple de Dieu, comme église du Seigneur. Que ta parole soit déposée en nous et que tu viennes avec ton esprit. Rends-la vivante afin que ce ne soit pas nous qui fassions quelque chose, mais que ce soit ta puissance qui rend ta parole vivante en nous et la confirme comme vérité. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici, pour tous ceux qui sont dispersés. Bénis les frères et sœurs Schmitt en Autriche. Bénis tous les frères et sœurs là-bas au Seigneur. Bénis en Suisse. Bénis dans toute l'Europe, dans le monde entier. Dieu fidèle, nous attendons que tu témoignes que tu es vivant, le vivant. Tu as donné la promesse et que tu la réaliseras. Adoration en ton nom. Amen.